un podcast France Culture.
€1,398,69 net par mois, c'est ce que gagne près d'une personne sur cinq aujourd'hui en France. Une part de la population qui a augmenté de 50% en deux ans. Or, ce salaire, c'est celui du minimum interprofessionnel de croissance, le fameux SMIC. Cette tendance inquiète le gouvernement français qui affirme sa volonté de vouloir désmicardiser de fait la France. L'exécutif a d'ailleurs créé un haut conseil des rémunérations, de l'emploi et de la productivité, dont les travaux ont débuté jeudi 28 mars. Alors comment expliquer que les salaires réels stagnent à ce niveau minimum? Les employeurs ont-ils si peu intérêt à augmenter leurs salariés? Le travail est-il in fine trop peu rémunéré en France? Nous en parlerons dans notre table ronde d'actualité avec nos deux invités, la sociologue Élise Penalva-Hichère et l'économiste Clément Carbonnier. Mais juste avant cela, comme tous les vendredis, nous nous intéressons à celles et ceux qui font avancer la discipline économique et la renouvelle en mobilisant ces outils et ces méthodes sur des terrains qui ne lui sont pas spontanément associés. C'est ce qu'a entrepris notre invité du jour qui s'est penché sur la façon dont les politiques de justice et de sécurité pouvaient être appréhendées et mieux analysées grâce à une évaluation chiffrée de leurs effets. Allonger la durée des peines prévues dans le code pénal peut-il désinciter les individus à tomber dans la criminalité? Quels facteurs jouent sur le risque de récidive? Faut-il moins incarcérer pour mieux réinsérer? Croyez-le ou non, l'économie permet aussi de répondre à toutes ces questions. Bonjour Camille Aimé.
Bonjour.
Camille Aimé, vous êtes professeure à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais vous êtes aussi responsable du pôle police-justice à l'Institut des politiques publiques, l'IPP. Ce pôle a été créé en janvier de cette année. Alors pourquoi une institution comme l'IPP a voulu se doter d'un tel pôle? Et qu'est-ce qu'une économiste comme vous vient y faire, Camille Aimé?
Merci de m'avoir invité pour parler de ce thème qui est effectivement pas le plus courant en économie. Donc effectivement, l'Institut des politiques publiques commence à avoir une réputation assez forte sur l'évaluation des politiques publiques auxquelles on est plus habitué en lien avec l'économie, l'éducation, les retraites, l'emploi, la fiscalité. Mais on trouvait qu'il manquait un pôle pour documenter l'impact des politiques régaliennes. Et donc, c'est ce que a souhaité faire Antoine Bozio. Et donc, pour monter ce pôle, il a sollicité trois économistes. Donc, Aurélie Housse, qui est aux États-Unis, Arnaud Philippe, qui est à l'Université de Bristol, et moi-même, qui suis sur place à l'École d'économie de Paris, parce que nous avons tous les trois travaillé sur des thématiques reliées à la question de la justice. Donc, surtout Aurélie et Arnaud. Moi, plus récemment, sur les prisons au Danemark, mais aussi j'ai travaillé depuis plusieurs années sur des questions de lien entre l'économie, la santé de l'économie locale et la criminalité locale, donc plutôt sur le volet police de ce pôle.
Alors on va revenir sur chacun de ces thèmes que vous venez d'évoquer, et c'est vrai que vous êtes ce fameux dixième pôle de l'IPP. Antoine Bozio, le directeur de l'Institut des politiques publiques, expliquait qu'une des conditions nécessaires pour la création de ce pôle fut l'existence d'une thématique importante, bon ça on l'a, et où les travaux de recherche et d'évaluation sont insuffisants. Comment on explique cette insuffisance, Camille Aimé? Pourquoi on ne se tourne pas spontanément en tant qu'économiste sur des questions de justice et de police?
C'est une discipline qui a quand même émergé depuis la fin des années 70 et avec notamment des travaux théoriques dont on pourra reparler tout à l'heure, mais et qui a explosé au cours des dernières années. Et initialement plutôt aux États-Unis, notamment parce que c'est des problématiques un peu plus importantes dans ce pays, mais aussi dans les pays scandinaves. Et dans les deux cas, c'est beaucoup lié à la disponibilité de données qui nous permettent de renseigner ces phénomènes de criminalité, d'activité de la police, de détention et des conséquences de la détention. En France, on a quelques données sur lesquelles mes collègues ont travaillé, sur notamment les questions pénales et carcérales. En revanche, sur les questions de sécurité intérieure, de police, il y a quelques travaux en France, mais vraiment très très peu, qui sont documentés à une échelle assez large, à l'échelle des départements. Et c'est difficile d'aller au-delà parce que voilà, la donnée n'est pas encore tout à fait disponible. Les services statistiques travaillent à ouvrir ces données, mais on n'en est pas encore tout à fait là.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est qu'il y a quand même une forme de tournant, c'est que donc, vos travaux sont essentiellement basés sur la donnée disponible, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une politique d'ouverture. En tout cas, on a accès à de plus en plus de données de la part des ministères. Ça, c'est quelque chose de nouveau, selon vous, Camille Aimé?
Oui, c'est assez récent que le ministère de la Justice a donné accès petit à petit depuis une dizaine d'années à ces données. Le ministère de l'Intérieur commence à le faire depuis quelques années, mais c'est encore assez frais. Ils mettent à disposition un certain nombre de données sur des plateformes sécurisées, sur un centre d'accès sécurisé distant. Mais ça reste encore très limité par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'encadrement de la disponibilité des données. Donc, si vous travaillez avec un comté de police qui est prêt à vous donner exactement la localisation de chacune de ces patrouilles de police pendant un an et la localisation exacte de chaque crime, là, vous pouvez faire des choses très intéressantes. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve aux États-Unis. Et dans les pays scandinaves, à l'inverse, ce qu'on trouve, c'est des données administratives très riches où on est capable de suivre les individus quand ils sont sur le marché du travail, puis en situation de sanction pénale, de détention, puis est-ce qu'ils retournent sur le marché du travail. Et tout ça, on est capable de le chaîner et de suivre ces individus sur toute leur trajectoire, y compris sur des questions de santé. Voilà, là, il y a un travail récent qui est sorti sur les données norvégiennes où on est capable de suivre dans le long terme quels sont les effets de la détention sur la santé mentale des individus. Donc ça, c'est des choses, on en est très très loin en France, mais on y travaille.
On est sur la bonne voie. C'est ce qu'il faut se dire. Une fois qu'on a bien compris que votre travail est essentiellement fondé sur cette étude de la donnée, sur sa prise en compte et son agrégation aussi, qu'est-ce qu'elle devient cette donnée? Quel est le but finalement? L'idée, c'est de récolter un maximum de données pour avoir cet aperçu quantitatif. Et ensuite, le but, quel est-il? C'est de formuler des recommandations, c'est de proposer l'analyse la plus fine possible sans pour autant vous prononcer sur le bien fondé d'une politique publique quelconque. Quelle est votre ligne finalement?
Donc, ce qu'on va faire de cette information de données, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'avoir des données les plus exhaustives possibles, ou en tout cas qui couvrent la population la plus large possible, pour essayer d'avoir des chiffres à la fin qui vont être représentatifs, qui vont pas être seulement tirés d'un sous-échantillon de population qui serait peut-être très spécifique. Donc ça, c'est aussi l'intérêt qu'on a. Et surtout sur ces thématiques de criminalité et de délinquance, en quelque sorte, heureusement, finalement, c'est pas des très gros chiffres. Donc c'est pour ça qu'avoir un échantillonnage un peu complet de la population, c'est intéressant. Et ensuite, nous, le travail qu'on va faire derrière, notre travail d'économiste quantitatif, quand on veut faire de l'évaluation, notamment de politique publique, c'est d'essayer de trouver des changements de loi, des variations dans le contexte qui nous permettent de comprendre quelles sont les conséquences d'un phénomène, d'une loi sur les résultats qui nous intéressent sur l'emploi, sur la récidive, parce qu'on n'a pas envie de trouver des corrélations qui seraient tirées par des biais ou qui seraient tirées par des causalités inverses. Donc ça va être tout notre travail, c'est d'essayer de se servir du contexte. Si on n'est pas dans un cadre expérimental, on se sert du contexte législatif notamment, pour essayer de trouver des moyens de mesurer une relation de causalité. Et c'est ça qu'on essaie de faire, qui est très difficile dans ces thématiques-là.
Est-ce que la difficulté vient aussi du fait que ce sont des questions peut-être encore plus, dans une certaine mesure, encore plus politisées et politiques que des questions de fiscalité qui peuvent se baser sur une forme de rationalité que l'IPP a l'habitude de traiter? Est-ce que là, vous voyez au quotidien dans vos travaux un peu cette ligne de faille, cette ligne de crête en fait sur laquelle vous fonctionnez, avec cette idée de ne pas se prononcer politiquement tout en abordant des dossiers assez brûlants?
Oui, donc ça me fait penser que j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question précédente, mais qui était qu'est-ce qu'on doit faire après avec ces résultats? Est-ce qu'on est là pour faire de la recommandation de politique? Mais pas forcément. Nous, notre travail, ça va être surtout de dire, est-ce que une politique qui a été mise en place, parce qu'on travaille beaucoup comme ça en France avec de l'évaluation ex post, est-ce que la politique qui a été mise en place fonctionne au regard des objectifs que s'était fixé le gouvernement? Et sinon, en fait, c'est quand même de l'investissement public. Comment est-ce qu'on pourrait mieux allouer cet argent public? Et pour ça, il faut tester d'autres politiques et essayer de comparer leur efficacité à budget constant, par exemple. Donc ça, in fine, ce serait plutôt ça notre objectif. Et nous, on n'a pas à donner de recommandations sur quelle est la meilleure politique si on ne l'a pas mesurée avant, si on n'a pas mesuré son efficacité, testée en amont. Et après, sur le fait que ce sont des sujets sensibles, c'est vrai. Et je pense que là, la vraie difficulté, c'est que c'est la raison pour laquelle on a du mal à accéder aux données. Notamment les données du ministère de l'Intérieur, qui est très frileux à les transmettre.
Alors, on a parlé de la mesure de l'efficacité, finalement, de ces politiques publiques. Il y a autre chose aussi qui peut être compréhensible ou en tout cas mis en lumière grâce à vos travaux, c'est finalement l'idée de comprendre ce qui motive le comportement des individus, à quelle rationalité ils obéissent. Et vous le mentionnez un peu plus tôt, ça c'est tout l'objet des travaux qui sont apparus dans les années 70, fin des années 60, de Gary Becker. Gary Becker, il a proposé finalement une sorte de modèle économique, de modèle de rationalité pour comprendre le comportement de certains individus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement en quoi consiste ce modèle et en quoi il peut être mobilisé sur des cas encore aujourd'hui?
Alors déjà, je voudrais juste revenir sur le fait que si les liens entre économie et criminalité sont pas forcément clairs pour tout le monde, en fait, très simplement, on peut faire un lien entre s'il y a de la délinquance, s'il y a de l'insécurité, ça va avoir des impacts sur la vie économique. Par exemple, vous êtes dans des quartiers où il y a beaucoup de délinquance, où il y a, je pense aux États-Unis, il y a des études sur le fait que les enfants vont moins bien réussir à l'école s'ils sont dans un contexte violent au quotidien. Donc en fait, ça a des impacts. Donc la délinquance et la criminalité ont des impacts économiques sur l'éducation et donc sur le marché du travail après. Et inversement. Donc il y a quand même ce lien sur les sujets entre économie et criminalité. Et après, sur la théorie, donc effectivement, ça, c'était le Gary Becker en 1968 qui a mis cette théorie où il disait on peut rationaliser le comportement criminel et dire, en fait, un agent qui va commettre un crime, c'est un agent économique rationnel. Donc ça, ça a été assez controversé, mais c'est ça l'idée de dire qu'il va choisir, qu'il va peser les avantages et les inconvénients, les coûts et les bénéfices de entrer dans une activité criminelle. Et donc, quels sont les bénéfices? Ça va être d'avoir une rémunération peut-être supérieure à celle qu'on peut avoir sur le marché du travail légal. Quels sont les coûts? Ça peut être d'être rattrapé et de finir en prison, par exemple. Et donc, il y a toute cette analyse qui dit comment est-ce qu'on va jouer sur les coûts et sur les bénéfices. Et donc ça, c'est toute la littérature empirique depuis les années 90 qui teste en fait cette théorie en disant quelles sont les incitations. Et donc, on voit effectivement que quand on est dans des situations de pauvreté, de fort taux de chômage, d'inégalité, de précarité, ça favorise la délinquance. Et ça valide en quelque sorte la théorie de Becker qui dit si on est dans une situation de pauvreté, ce à quoi je renonce en allant commettre un crime, c'est un salaire qui est assez faible. Et donc j'ai plus d'incitation à aller commettre un crime. Et donc il y a toute cette littérature qui va aussi tester l'impact des sanctions. Si j'augmente la police, je risque plus de me faire attraper, est-ce que ça réduit la criminalité? Si j'augmente les peines encourues, j'augmente le risque, est-ce que ça va m'inciter à réduire mon comportement criminel.
C'est un arsenal théorique que je crois que vous avez mobilisé dans votre thèse, qui remonte à il y a une petite dizaine d'années. Une thèse qui s'intitulait « Qui se ressemble ne s'assemble pas toujours, essai sur les effets socio-économiques de la diversité locale » et qui avait été dirigée par l'économiste Yann Algan. Quel était votre terrain de recherche dans le cadre de cette thèse, Camille Aimé?
Donc effectivement, dans ma thèse, je me suis intéressée aux interactions sociales locales de manière assez large. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment, quand on est dans une communauté à un niveau assez fin, donc un quartier pour le dire simplement, comment la composition sociale ou la composition en termes d'origine nationale va pouvoir jouer sur les résultats des agents qui vivent dans cette communauté plus ou moins diversifiée, donc en termes de qualité du marché, enfin qualité du logement dans lequel on vit, ou en termes d'accessibilité à l'emploi, ou encore en termes de criminalité, de délinquance, ou plutôt de victimation, c'est ça que j'ai regardé dans ma thèse.
France Culture, entendez-vous l'écho? Alia Tovin.
Alors Camille Aimé, venons-en au cas concret dont vous vous êtes préoccupé avec votre équipe au sein de l'IPP. Vous avez, grâce aux données fournies par la sous-direction de la statistique et des études du ministère de la Justice, comparé l'écart, notamment entre les peines prononcées par les tribunaux et les maximums définis par le code pénal pour 39 types de délits et 23 types de crimes différents, c'est très précis. Alors selon l'étude, les écarts se creusent, et ce malgré des réformes très fréquentes de la loi pénale. Donc conséquence de ce double phénomène, la justice peut paraître laxiste, puisqu'elle exige des peines très fortes qui ne sont pas toujours appliquées. Et c'est là que vous, en tant qu'économiste, et que le raisonnement économique rentre en jeu, puisque cette note recommande de réduire les peines et non de les augmenter. Donc là, c'est quand même une recommandation très franche, très, très tranchée. Sur la base de quel raisonnement vos collègues ont abouti à cette conclusion, Camille Aimé?
Donc là, le travail auquel vous faites référence, c'est un travail de mon collègue Arnaud Philippe, qui est à l'université de Bristol, qui est à Paris en ce moment. Et donc effectivement, le mécanisme qu'il met en avant, c'est de dire, tout d'abord, on augmente les encourus, donc le niveau de peine maximale que vous encourez pour un type de délit. Déjà, on l'augmente sur beaucoup de délits qui sont très peu punis, qui sont très peu utilisés. Et la deuxième chose chose qui est intéressante de remarquer, c'est qu'effectivement, on ne va jamais jusqu'au maximum, enfin, ou très rarement jusqu'au maximum de ses encourus. Et du coup, la façon dont ça peut être perçu de la part de la personne qui est condamnée, c'est de se dire, bah, finalement, si on vous dit, vous risquez un an de prison et on vous met 3 mois, c'est beaucoup. Si on vous dit, vous risquez 5 ans de prison, on vous met 3 mois, ça vous paraît pas beaucoup. Vous ressortez en disant, bah, j'ai tout gagné, j'ai été vraiment peu puni par rapport à ce que je risquais. Donc c'est en ce sens-là que ça peut paraître assez désincitatif et peu efficace.
Et c'est là qu'on retrouve finalement la notion de coût d'opportunité tel que le développait Gary Becker.
Exactement, c'est le coût d'opportunité où là c'est le fait de se dire quel est le risque que j'encours et est-ce que finalement, donc là c'est peut-être aussi un peu en contradiction, c'est qu'on voit que ce qui va peser, ça va pas être tellement le risque encouru, mais c'est le sentiment qu'on en retire de ce qu'on a été effectivement puni. Et donc ça après c'est un apprentissage qu'on peut faire, c'est aussi les travaux d'Arnaud Fives, c'est de dire bah une fois que j'ai été jugé, j'apprends et donc je vois que pour ce type de crime, bah finalement j'ai pas été autant puni que ce que j'avais anticipé et du coup bah j'ajuste à la baisse l'anticipation que j'ai de la sanction possible pour ce type de délit pour la prochaine fois.
Mais c'est intéressant parce que dans ce cadre-là, cette économie très rationnelle, finalement, devient presque de la psychologie. Est-ce que tous les modèles de comportement correspondent finalement aux effets attendus tels que le modèle de rationalité de Becker le supposait ?
Non, effectivement, je crois qu'on a quand même beaucoup avancé depuis les années 70 et l'homo economicus parfaitement rationnel. Et effectivement, il y a tout un champ de l'économie qui est développé, qui est l'économie psychologique, l'économie comportementale, qui s'intéresse justement à montrer que l'humain, l'homme n'est pas toujours complètement rationnel.
Les peines planchées, quand on regarde là encore les chiffres, mais encore faut-il que l'on veuille les regarder et qu'on ne se contente pas de polémiques, de buzz, de tweets, de réseaux sociaux. Je vais vous les donner, les chiffres. Ben, d'abord, elles ont été en vigueur entre 2008 et 2013, hein, vous le savez. Le quantum moyen d'emprisonnement pendant ces peines planchées était compris entre 7,3 mois et 7,9 mois. Donc moyen, c'est il y a des peines importantes, il y a des peines plus basses. Moyen, la moyenne. Hein. Ça, sont des vrais chiffres. Juste après l'abrogation des peines planchées, on est passé de peines planchées virées à des peines qui n'étaient plus planchées et le quantum était compris entre 8 et 9,5. Augmentation considérable de la sévérité après l'abrogation des peines planchées. C'est un fiasco. Et d'ailleurs, les chiffres de la délinquance, à l'évidence, démontrent là encore, mais encore faut-il que l'on ait envie de les voir, que pendant cette période des peines planchées, en réalité, la délinquance n'a pas baissé.
Encore faut-il vouloir regarder les chiffres, martelait Éric Dupond-Moretti en mai 2021. Alors c'est précisément ce qu'ont fait vos collègues Camille Aimé dans une note qui, elle, a été publiée en mars 2024 et qui conclut qu'en effet, les peines planchées n'ont pas tellement d'effets dissuasifs sur le court terme en ce qui concerne les récidivistes. Comment l'expliquer ? Est-ce qu'on est toujours finalement dans un modèle de rationalité économique, là encore ?
Bah, en réalité, donc ça, encore une fois, c'est le travail d'Arnaud Philippe, mais donc ce qui montre, c'est pas que c'est peu efficace sur l'ensemble, si on regarde l'ensemble des crimes, mais donc ces peines planchées, elles visaient à punir très sévèrement les récidivistes au sens légal, c'est-à-dire les personnes qui commettent, encore une fois, exactement le même type de délit. Donc c'est pas la réitération, c'est pas un autre type de crime, ça n'est pas concerné. Et donc ce que Arnaud montre et qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un petit effet de réduction de la délinquance sur ces cas de récidive. Donc les personnes qui sont jugées, elles ont très bien compris ça. Et donc elles vont pas récidiver, mais ça va pas diminuer leur délinquance générale sur d'autres types de délits. Donc ça va pas baisser la criminalité globale, mais simplement peut-être ces cas de récidive et de manière très marginale. Et ce qui est intéressant, et c'est là aussi où on a envie de se dire qu'il y a très peu d'apprentissage social finalement de ces changements de loi, ou en tout cas de celui-ci, c'est que quand on regarde ce qui se passe pour d'autres personnes qui auraient pu apprendre de l'exemple de leurs collègues qui auraient pu risquer de ces peines planchées, donc quand on pense Arnaud regarde les co-accusés, donc les personnes qui sont accusées en même temps qu'une personne qui risque une peine planchée, on voit que ça ne réduit pas leur criminalité, donc ils n'apprennent pas de la sanction risquée par leurs collègues en les observant. Et de même, ce qui regarde regarde aussi, c'est les personnes qui sont jugées le même jour que quelqu'un qui va subir une peine plancher, dans le même tribunal, mais pour un fait différent. Donc, il observe ce mécanisme de peine plancher. Et ben, ça va pas réduire sa criminalité non plus. Donc, il n'y a pas tellement de diffusion d'apprentissage un peu des comportements par le changement de loi.
Ce que vous faites, vous, Camille Aimé, c'est la question à laquelle vous vous êtes particulièrement attelée, c'est que vous avez mis en parallèle le coût, on va dire, d'une journée en prison, ou en tout cas le coût global que coûtait une personne incarcérée. Vous l'avez mis en parallèle avec la durée des peines et la façon dont on vivait aussi cette incarcération. En tout cas, vous avez essayé de juger de l'efficacité, on va dire, de l'incarcération. Et je crois que vous êtes tournée, vous le disiez un peu plus tôt dans l'émission, vers le cas du Danemark. Quelle conclusion en avez-vous tirée?
Donc effectivement, avec mon collègue Bastien Michel, qui est à l'université de Nantes et qui travaillait au Danemark auparavant, on a eu accès à des données administratives sur le cas des prisons danoises pour essayer de regarder quel était l'impact de ces prisons sur un certain type de délit qui est le délit de conduite en état d'ivresse. Oui, au Danemark, jusqu'aux années 2000, on allait en prison pour ça. Et donc, on a essayé de regarder, se dire quel est l'effet de la prison pour ces personnes-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, avant l'année 2000, les personnes pouvaient aller en prison pour conduite en état d'ivresse. Après 2000, c'était plus le cas. Et donc, on peut comparer, si vous voulez, les effets de long terme entre les personnes condamnées à la prison pour conduite en état d'ivresse et celles qui ne sont pas condamnées à la prison, qui sont en peine probatoire. Et on observe qu'à long terme, ça se traduit par des baisses très fortes de salaire moyen, un décrochage du marché du travail et une récidive plus forte pour les personnes qui ont été condamnées à la prison, alors qu'on est au Danemark dans un cadre de prison ouverte et sur des très courtes peines.
Merci beaucoup Camille Aimé d'être venue en studio avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeure à l'école d'économie de Paris et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais que vous êtes aussi responsable du pôle police-justice à l'Institut des politiques publiques. Entendez-vous l'écho se poursuit autour de notre table ronde d'actualité qui se penchera sur la désmicardisation de la France que l'exécutif appelle de ses voeux. Que faut-il entendre par là? Est-ce souhaitable ou seulement faisable? On en parle dans quelques instants. Vous aurez reconnu la version instrumentale du titre House of the Rising Sun, version The Animals de 1964. Vous êtes toujours à l'écoute d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi.
On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France.
La smicardisation de notre société ne fait pas un avenir pour nos compatriotes. Elle crée beaucoup d'inquiétudes et dans le fond beaucoup de découragement. Si vous savez que tout le monde va finir par avoir à peu près le même salaire, ça décourage l'effort, ça décourage l'envie de travailler, ça décourage l'engagement des salariés. Nous devons recréer une dynamique des salaires en France pour recréer un espoir par le travail.
On est à peu près tous d'accord sur ce phénomène de smicardisation des salaires intermédiaires qui sont ceux juste au-dessus du SMIC. Oui. En fait, il existe véritablement un phénomène de trappe à bas salaire et on fait le même diagnostic. Maintenant, les réponses sont pas les mêmes. De notre côté, côté MEDEF, côté employeur, ça fait des mois qu'on alerte le gouvernement justement sur cette smicardisation. Quand vous vous promenez dans des secteurs qui sont des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre mais à faible coût de main-d'œuvre parce qu'à faible marché, il suffit de regarder les marché de la propreté ou de la sécurité.
D'accord.
Où bien souvent, c'est la commande publique qui tire vers le bas les prix d'achat de ces marchés, eh bien en fait, il y a une impossibilité d'augmenter significativement les salariés.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, ça coûte et à l'entreprise et aux salariés.
Mmh. CFE-CGC, c'est le syndicat des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres, de tout l'encadrement. Et on se sent pour le coup très concerné par les conséquences de ces politiques salariales qui nous ont amené aujourd'hui à avoir finalement à constater une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 15 à 30% suivant la catégorie à laquelle on appartient dans l'encadrement, dans la classe moyenne.
17% des salariés sont aujourd'hui au SMIC et ça ne fait qu'augmenter.
Et ça ne fait qu'augmenter, mais ça c'est je veux dire, c'est normal quand on a une politique de précarisation, d'ouverture de la trappe à bas salaire, faut pas s'étonner après qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient dans cette trappe. Finalement, ce que nous dit Gabriel Attal, moi ça me fait penser à la campagne électorale de Barroso il y a 10 ans, la Commission européenne, et finalement qu'on aurait pu qualifier par le slogan suivant, nous allons continuer à faire de plus en plus ce qui ne marche pas.
La smicardisation de la France semble être devenue l'ennemi numéro un pour le gouvernement. Les syndicats s'en alarment également, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Alors comment expliquer cette tendance à l'homogénéisation des salaires au niveau de son seuil minimal légal et quelles en sont les conséquences? Le travail doit-il être plus rémunérateur ou mieux rémunéré? C'est toute la question. Quel mécanisme mettre en place pour remédier à cette situation sans générer davantage d'inégalités? On en parle jusqu'à 15h avec vous. Clément Carbonnier, bonjour.
Bonjour.
Clément Carbonnier, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, co-auteur de l'axe politique socio-fiscale du LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Alors on l'entendait dans ces extraits, la proportion des salariés rémunérés au SMIC, donc soit 1393,69 € par mois, on le rappelle, n'a jamais été aussi élevé depuis 1991, atteignant 17% au 1er janvier 2023 contre 12% seulement début 2021. Clément Carbonnier, comment expliquer une telle augmentation ?
L'augmentation, elle est liée au fait que on a eu une période avec une accélération de l'inflation, une inflation un peu plus forte, et en fait des salaires qui n'ont pas augmenté aussi vite que l'inflation, c'est-à-dire des salaires réels qui ont baissé et qui, du coup, se sont retrouvés en baissant, se sont retrouvés plus proches du SMIC et donc plus de gens qui étaient proches du SMIC, parce que le SMIC lui est resté constant en valeur, c'est-à-dire qu'il est indexé sur l'inflation, et donc le SMIC, lui, n'a pas baissé, il n'a pas augmenté en pouvoir d'achat, il est juste resté constant, et donc en restant constant, il a rattrapé les salaires qui ont baissé.
C'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un phénomène de rattrapage. En s'indexant sur l'inflation, le SMIC augmente, mais pas les salaires non indexés, donc finalement, tous les salaires se rejoignent, ça crée une espèce de d'appel d'air vers le bas, en fait, si je vous comprends bien.
Je sais pas si c'est pas d'appel d'air, parce que d'appel, enfin, je pense que appel d'air, ça revient plus à des questions que peut-être j'ai entendu sur chez certaines personnes qui défendent un certain nombre de mesures sur l'idée que par exemple ce serait des barèmes fiscaux-sociaux qui empêcheraient l'augmentation des rémunérations, et cette idée-là un peu d'appel d'air. Là, on a quelque chose d'un peu plus mécanique, c'est-à-dire qu'on a un faible pouvoir de négociation des salariés à moyen et bas salaire et qui du coup n'arrivent pas à ne serait-ce que négocier de conserver leur pouvoir d'achat, et donc ils ont le salaire qui baisse, et donc en baissant, se retrouve au niveau du SMIC. Et là, effectivement, au niveau du SMIC, à moins de sortir du salariat avec des contournements de ce type d'emploi-là, on est bloqué, on ne peut pas descendre plus bas que le SMIC.
Alors, on va parler des conditions de négociation de ces salaires. Ça va être un peu tout l'enjeu de cette émission, d'ailleurs. Élise Penalva-Hicher, bonjour, bienvenue dans ce studio.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales LIRISO de l'Université Paris-Dauphine, et vous êtes autrice de La frustration salariale, à quoi servent les primes? Une très bonne question qu'on va se poser aussi aujourd'hui. Et ça a été publié chez Sorbonne Université Presse en mars 2024, donc très récemment. On l'entendait dans les extraits diffusés en début d'émission, Bruno Le Maire voit comme un danger cette uniformisation des salaires, ou en tout cas ce phénomène de rattrapage qu'on vient de décrire. Pour lui, c'est une menace sur l'envie de travailler, c'est justifié selon vous?
Alors non, je pense que c'est pas une menace sur l'envie de travailler, ça dit d'autres choses que ça. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que quand on reçoit son salaire, la question du montant, elle est première. Et effectivement, là, avec l'indexation du SMIC et la désindexation des salaires, on a un phénomène où les gens se rendent compte qu'ils manquent de pouvoir d'achat de manière assez drastique. Mais ça dit une première chose, c'est que le montant du salaire, il est premier. C'est-à-dire que le salaire, on le perçoit pour vivre et qu'en ce moment, il y a des gens qui ont du mal à vivre alors qu'ils travaillent. Et ça, c'est une vraie question. Après, il y a la question du salaire qu'on reçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Parce que ça, c'est extrêmement important. Un salaire, en fait, on le reçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres, dans ces échelles de salaire. Et là, l'indexation du SMIC fait que, c'est le phénomène qui était décrit juste à l'instant, on a vraiment un tassement des salaires vers le bas avec des gens qui sont aussi collés, c'est-à-dire que qui n'arrivent pas à augmenter leur salaire et qui voient les salaires les rattraper. Et effectivement, la question des échelles de salaire, elle est extrêmement importante aujourd'hui dans la manière dont les gens reçoivent leur salaire, parce que avant, pendant les 30 Glorieuses, on avait des grandes catégories, les salaires renvoyés à aussi une place dans la société, dans l'entreprise, ça correspondait à des catégories sociales, et aujourd'hui les échelles, elles ont bougé et elles sont plus aussi claires pour les salariés qui se demandent aussi combien ils reçoivent et comment ils le reçoivent, et c'est pas aussi clair pour eux, notamment avec l'introduction des primes, mais ça je pense qu'on va en reparler.
Alors justement, afin de bien comprendre les effets de cette smicardisation, de ce processus-là, à la fois en termes de pouvoir d'achat, mais aussi potentiellement en termes de frustration et de sentiment d'injustice vis-à-vis des autres collègues, je voudrais vous faire entendre les témoignages issus d'un reportage diffusé en octobre 2022 dans l'émission C'est dans l'air.
On a l'impression que on est dans la partie où on n'aime pas être, en fait. On est juste assez haut pour avoir l'impression de bien vivre, et on est juste assez haut pour te rendre compte que tous les mois quasiment tu perds de l'argent en allant faire tes courses.
C'est pas la peur de déclassement qui nous inquiète le plus, c'est juste la peur du glissement vers ce qu'on appelle la pauvreté, la pauvreté, parce que nous on fait déjà très attention. Et on voit que notre pouvoir d'achat, finalement, malgré les aides qu'on peut avoir ou les primes qu'on a, ne augmente pas. Elle stagne, voire baisse quotidiennement.
Il faut se réveiller, là. La France, réveillez-vous, quoi. Parce que les augmentations, les pourcentages dans les hiérarchies sont très fortes. Et puis nous, on a le droit aux miettes, quoi. Et ça, non. On veut plus les miettes, nous.
L'écart entre le SMIC, le fameux salaire interprofessionnel minimum de croissance, et le salaire médian n'est plus que de 600 euros aujourd'hui. Quelles conséquences cela peut-il avoir au sein d'une entreprise, Élise Pénal-Vaïcher ? Vous commencez à l'évoquer, mais je pense qu'il est important de revenir sur ce que ça peut provoquer très concrètement, finalement.
Alors, très concrètement, ce qu'on on assiste depuis une trentaine d'années à une individualisation et à une complexification des salaires. C'est-à-dire, comme je le disais précédemment, pendant les 30 Glorieuses, un salaire, c'était un salaire fixe, et ça renvoyait à une catégorie qui faisait sens par rapport au travail, mais aussi par rapport aux autres groupes sociaux dans la société. Depuis les politiques néolibérales des années 80, on a introduit des primes, alors on pourra revenir sur les raisons de ces introductions, mais on a introduit des primes individuelles au mérite, à la performance, de l'épargne salariale, donc des rémunérations qui ne sont plus forcément un salaire fixe, global.
Pour un nombre d'heures travaillées.
Pour un nombre d'heures travaillées, mais qui viennent un peu complexifier la manière dont les salariés sont rémunérés dans ce qu'on appelle des packages de rémunération. Et en fait, le problème de ces packages de rémunération, c'est que ça vient un peu flouter le montant du salaire que les salariés touchent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile pour eux de comptabiliser et aussi de savoir à quel titre ils perçoivent ces différentes primes qui peuvent venir récompenser. Alors, elles sont souvent dites au mérite. Hein. Elles sont normalement faites pour inciter les travailleurs, mais elles peuvent venir avoir d'autres effets dans les entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, dans les entreprises, les salariés sont en demande de transparence sur leur salaire. Cette transparence, elle vient du fait que la perception de leur salaire a été floutée par des dispositifs qui, à la base, étaient mis en place pour les inciter à plus travailler. Donc, ces primes, elles ont des effets un peu contre-productifs sur lesquels on pourra revenir.
C'est intéressant ce que vous dites, Élise Pénal-Vaïcher, parce que ça nous amène à une autre perception, finalement, de ce qu'est le SMIC et de ce qu'est son rôle et de la façon dont il a été pensé. L'économiste Philippe Askenazy a publié une tribune dans ce sens dans le journal Le Monde. Lui, il disait que, en fait, le enfin, comme l'augmentation du SMIC est purement mécanique, puisque la dernière augmentation volontaire de la part du gouvernement date d'il y a une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus, le SMIC ne joue plus son rôle d'outil de politique salariale en France. Et ça, c'était effectivement un de ses rôles, Clément Carbonnier. C'était un signal aussi, le SMIC.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un signal et c'est aussi poser une norme. C'est-à-dire que dire que, on entend beaucoup, il faut que le travail paie, etc. Et c'était un de ces outils. Alors, il y en avait d'autres parce que il y a aussi un certain nombre de salaires minimum par branche, etc., qui peuvent être négociés. Mais c'est cette idée de dire qu'il y a un certain nombre de, et ça rejoint la question de l'individualisation, de questions collectives où on dit, il y a quand même le travail ne peut pas payer moins que ça. On est dans une société qui a acquis un certain niveau de développement, qui produit un certain nombre de richesses, et du coup, cette société ne considère que ça ne peut pas être normal que un de ses membres travaille pour moins que un certain montant. Et donc c'était effectivement cette idée du SMIC et du coup l'idée aussi, et c'est pour ça que c'est important de le garder. Alors il y a beaucoup moins de croissance ces derniers temps, mais l'idée que le SMIC justement il devait aussi évoluer avec la croissance, avec ce qu'on était, avec justement ce que la société était capable de produire comme richesse. Et donc le fait d'avoir coupé ça depuis, il me semble que le dernier c'est 2012 en fait, c'est juste après l'élection.
De 0,6%.
Juste après l'élection présidentielle de 2012, ça a été le dernier coup de pouce et puis après ça a été fini. Et donc ça commence à faire bientôt 12 ans. Et effectivement, ça veut dire que, alors même s'il y a eu peu de croissance sur cette période-là, il y en a eu un petit peu et qu'on considère que finalement, cette croissance-là, il n'y a pas de dispositions collectives qui imposent de la partager, y compris avec tous les travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas de... Et c'est ça le point important, je pense, mais on va y revenir, qui n'ont pas de pouvoir de négociation individuel.
Apparu au Journal officiel, le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est important que salariés et employeurs comprennent exactement la portée de ce décret. L'Assemblée nationale, en février dernier, faisant droit au désir alors unanimement exprimé par les organisations syndicales, ouvrières et patronales, a prescrit que le régime institué pendant la guerre de fixation des salaires par l'État devait prendre fin, comme progressivement avait disparu pour la plupart des produits la fixation des prix par le gouvernement. Les salaires doivent être désormais déterminés par accord direct entre salariés et employeurs. Mais dans le but de protéger les salariés, le législateur n'a pas voulu que ce débat puisse s'engager sans que soit fixée la rétribution minima au-dessous de laquelle aucun travailleur ne saurait être payé, homme ou femme, employé ou ouvrier.
Et on peut peut-être rappeler les raisons qui ont justifié la mise en place du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti en 1950, date de cette archive que l'on vient d'entendre et qui est devenue le SMIC en 1970. Élise Penalvaïcher, ce qu'on entend en fait, c'est qu'il y a aussi une volonté de protéger les salariés dans le cadre d'un accord direct avec leur employeur. C'est ce qu'on entendait.
Oui, c'est ce qu'on entend. Et c'est effectivement ce qu'on voit avec ces effets d'individualisation et de complexification. Les salaires étaient négociés, enfin, sont toujours négociés au niveau des branches, mais récemment il y a eu aussi une inversion de la hiérarchisation des normes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les salaires sont aussi négociés dans les entreprises. Et dans les faits, ce qu'on voit surtout, c'est que l'individualisation, c'est-à-dire tous ces petits bouts de rémunération qui sont liés aux salariés individuels, sont négociés dans des face-à-face aussi avec son manager de proximité, qui lui reçoit une politique salariale qui vient de plus haut. Donc on a effectivement des dispositifs qui sont pensés à un niveau plus hiérarchique dans les entreprises et qui doivent être défendus par des managers de proximité, avec par exemple des augmentations moyennes avec plus à l'un, moins à l'autre pour compenser parce qu'il faut respecter les augmentations moyennes. Et ça, ça crée énormément de complications pour les salariés parce qu'ils comprennent pas toujours la manière dont sont justifiées ces augmentations différenciées. Et ça, c'est important, c'est que le SMIC là, c'est fait pour protéger. Et les augmentations salariales, elles ont besoin d'un régime pour venir les justifier et les légitimer. Mais aussi aux managers de proximité qui savent pas toujours bien défendre aussi ces primes. Par exemple, les primes de performance, elles sont supposées mesurer après certains aspects du travail, et on rencontre des managers qui se cassent la tête pour essayer de faire bien les choses, mais qui sont face à une impossibilité de mesurer les tâches et qui doivent verser des primes qu'ils n'arrivent pas à justifier, et ça crée effectivement pas mal de frustration dans les équipes généralement.
Juste pour faire être bien clair sur les enjeux finalement de ces négociations, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème n'est pas tant celui du SMIC qui est indexé sur l'inflation que celui des salaires qui sont juste au-dessus en fait du SMIC, qui eux pour le coup ne le sont pas et qui doivent de fait faire l'objet de ces négociations là, et c'est la raison pour laquelle on en parle. Clément Carbonnier, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, non, juste pour rebondir sur cette question à la fois de l'individualisation et de l'inversion de la hiérarchie des normes, avec cette question de protection, en donnant un exemple justement par rapport à votre premier son, qui était une interview, je crois, de quelqu'un du MEDEF qui parlait des entreprises de la propreté et de la sécurité en disant le problème c'est la commande publique. Alors il y a le problème de la commande publique, et plus globalement c'est le problème de la commande, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des entreprises qui principalement font des services aux entreprises et qui dans ce marché-là, aux entreprises ou à la fonction publique, et qui dans ces marchés-là sont dominés. Et donc effectivement, si on descend la négociation au niveau, alors individuel encore plus, mais même au niveau des entreprises, il n'y aura pas de pouvoir de négociation, parce que ces entreprises sont pressurées sur ce marché-là, en extrême concurrence par rapport à des donneurs d'ordre, qui fait que en fait elles vont se faire concurrence entre elles. S'il n'y a pas à un niveau plus global une négociation qui pose une limite, eh ben elles vont se faire concurrence en prix, et donc derrière la négociation, même si on a un syndicat à l'intérieur de l'entreprise, c'est dire oui mais si on augmente vos salaires, on va se faire piquer le marché par l'entreprise d'à côté, et donc on vous licenciera, on vivra pas. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une négociation pour les règles du jeu. C'est une négociation plus haut au niveau de l'ensemble de la branche pour dire non, on ne va pas se faire concurrence en baissant les salaires, on va se faire concurrence autrement, et ensemble on va négocier un salaire plus haut. Et donc ça, c'est un des points importants, et c'est un des points qui joue énormément dans ce mécanisme de baisse des salaires. C'est le fait que on descend toujours plus bas la négociation. Or, on a des négociations où on a une asymétrie de pouvoir de négociation entre les employeurs et les employés. Et donc, le principe, et là, je rebondis sur l'autre son de la protection des salariés, c'est l'idée que cette asymétrie, elle est défavorable aux salariés, et qu'il faut des dispositifs pour protéger leur pouvoir de négociation. Et ces protections-là, c'est par le collectif et c'est pas par l'individualisation. Et plus on individualise, plus on restreint le pouvoir de négociation, hormis de quelques personnes particulières qui ont leur pouvoir de négociation individuel.
Alors justement, j'aimerais bien qu'on fasse un point effectivement assez concret sur cette question de la hiérarchisation finalement des cadres dans lesquels se situe la négociation. Vous parliez d'une négociation à l'intérieur d'une entreprise, pratiquement comme un ensemble individuel finalement, d'une entreprise contre une autre et prise dans ce jeu de la concurrence-là. Il existe également des accords de branche et ça, Élise Banalvay-Hichère, est-ce que c'est ces négociations-là, dans le cadre des accords de branche, qui sont plus importantes que celles dans les entreprises, ou c'est l'inverse ?
Alors non, on a connu un retournement dernièrement des négociations, et aujourd'hui ce sont les négociations d'entreprises qui priment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les négociations, toutes les entreprises peuvent pas mettre en place des négociations tous les ans. Par exemple, sur les accords de branche sur le SMIC, dernièrement le SMIC, du fait de son indexation à l'inflation, a augmenté beaucoup plus rapidement que le rythme des négociations annuelles. Donc on a aussi effectivement ces effets de décalage. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que la mise en place de dispositifs individualisés de type prime, ça sort aussi de ces notamment primes individuelles, parce que l'intéressement et la participation sont négociés, mais les primes individuelles, ça sort aussi des négociations collectives. Et ça rajoute un niveau de négociation vraiment très local, hein, des fois dans les équipes, avec des managers qui sont pas toujours formés ou qui ont pas toujours envie de faire ce type de tâches. Ce que je voudrais ajouter, c'est aussi que les primes ça vient dans ce contexte d'augmentation ou de non-augmentation des salaires apparaître comme une bonne idée pour augmenter le niveau de rémunération et à peu de frais, entre guillemets, à peu de frais notamment pour l'employeur parce qu'elles sont exonérées des cotisations, à peu de frais pour le salarié parce que quand il abonde sur un plan d'épargne, quand il place sur un plan d'épargne, il peut être bénéficiaire d'un abonnement de l'entreprise, donc toucher plus. C'est aussi l'idée de prime de partage de la valeur, la prime Macron, c'est la bonne idée pour augmenter les niveaux de rémunération sans directement augmenter les salaires et sans passer par ces négociations. Mais ça, c'est vraiment une fausse bonne idée pour moi. C'est une fausse bonne idée. Parce que quand on voit ces primes, alors déjà le fait qu'elles soient exonérées de cotisations fiscales, c'est un manque à gagner à plus long terme pour le salarié en termes de dispositifs de retraite, mais aussi pour le système de protection sociale. Et c'est aussi une fausse bonne idée parce que en fait, ces primes individuelles, comme elles créent du flou dans la manière dont les salariés la perçoivent, ils vont mettre en place des comparaisons souvent. Alors à la machine à café, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires de feuilles de primes qui traînent à la photocopieuse, voire même de salariés qui s'organisent pour avoir des tableaux suivis Excel informels des primes. Alors ça peut être aussi accompagné par le management, mais on a aussi pas mal de dispositifs informel. Et dans ces comparaisons, en fait, on assiste à un phénomène typique de ce qu'on appelle la frustration relative. C'est-à-dire que quand on reçoit une prime individuelle, on va se comparer aux autres. Et quand les autres en reçoivent aussi, peu importe si on en reçoit plus ou moins, mais comme les autres en reçoivent, ça crée des différences qui ont... Comme il n'y a pas de règle générale sur ces primes de protection de salariés, par exemple, mais comme elles ont du mal à être justifiées, ça crée des phénomènes de frustration. C'est-à-dire que les primes individuelles, quand on les verse, elles ne satisfont pas toujours les salariés. Et là où ces dispositifs sont mis en place pour venir pallier un peu, comme une bonne idée, les non-augmentations des salaires, ils ont des effets sur la satisfaction des salariés contraires.
Donc on a bien compris cette tendance à l'individualisation finalement des salaires, et d'ailleurs les chiffres de l'INSEE le confirment, mais je voudrais juste en revenir, Clément Carbonnier, à cette idée que finalement ces accords de branche sont, j'ai l'impression, quand même mis sous le feu des projecteurs. Il y avait notamment cette idée que on en arrivait à un point, du fait de l'indexation sur l'inflation du SMIC, à un point où certains salaires dans certains secteurs, notamment industriels, étaient en dessous du niveau du SMIC. Or c'est illégal. Comment on en arrive à une telle situation ?
Alors, les salaires eux-mêmes ne vont pas être en dessous du SMIC. C'est la grille des salaires minimums de branche qui va commencer en dessous. Et donc, effectivement, ça participe de l'écrasement des salaires. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en dessous vont être payés au SMIC. Et d'une certaine manière, ça va avoir comme effet je passe un cran, soit d'ancienneté, soit de qualification. Je passe au niveau d'un salaire minimum de branche supérieur, mais je passe d'en dessous du SMIC à en dessous du SMIC et je reste au SMIC. Ça va être ça le mécanisme.
France Culture.
Au fait, c'est pour quand cette augmentation du SMIC ?
Fin du mois.
Entendez-vous l'écho ?
Le SMIC va être augmenté de 2%.
Ça veut dire que la vie va augmenter de 5%.
Aliatovin.
Alors, on l'a bien compris, le problème majeur soulevé par l'augmentation du nombre de bénéficiaires du SMIC est en réalité que les autres salaires n'augmentent pas, on l'a dit. Clément Carbonnier, il faut peut-être faire un petit retour dans l'histoire récente de l'économie française. C'est que ce blocage, c'est notamment l'économiste Michael Zemmour qui parle vraiment de ce blocage des salaires, c'est le résultat de plusieurs années, finalement, voire de plusieurs décennies de politiques de baisse du coût du travail. Par quoi elles ont été justifiées, ces politiques ?
Alors, petit à petit, en fait, la politique française a considéré que sur un peu tous les plans, à la fois la politique de l'emploi, mais aussi finalement la politique de croissance, etc., l'enjeu principal, c'était de baisser le coût du travail. Donc c'est un raisonnement finalement assez simpliste, où on considère finalement un marché du travail qui fonctionne comme tout marché. Donc si on baisse le prix, les gens vont en acheter plus. Et donc en gros, le prix, c'est le salaire. Les gens qui achètent, c'est les employeurs. Et donc si on baisse le coût du travail, les employeurs vont employer plus. Et donc du coup produire plus. Donc il y a vraiment cette idée qui s'est imposée, alors qui a commencé à la fin des années 70 après la crise pétrolière et qui s'est ensuite développée. Alors on peut pour retracer la désindexation des salaires, c'est au début des années 80, et puis ensuite on a tout un jeu. Alors au début on a essayé en France de préserver la chèvre et le chou en essayant de faire baisser le coût du travail sans trop toucher au salaire. Et donc ça a été toutes les politiques d'allègement de cotisations sociales, etc., etc. Ensuite, c'était pas forcément suffisant, et donc on a essayé d'aller plus loin. Donc c'est tout ce qui on a touché pas au salaire net direct, mais au salaire indirect, donc à la protection sociale. Ça c'est les réformes de la santé, des retraites, etc. Et puis plus récemment, si on voulait continuer à faire baisser le coût du travail, il fallait s'attaquer aux salaires nets eux-mêmes. Et donc, ça a été fait par différents moyens. On a parlé des négociations collectives, mais il y a d'autres mesures. Il y a eu, à la fin des années 2000, la création du statut d'auto-entrepreneur qui sert à contourner un certain nombre de règles sur le salariat. Et il y a actuellement, quand même, qui rentre totalement dans la même perspective, toutes les réformes de l'assurance chômage, puisque en fait, en coupant énormément la protection des demandeurs d'emploi pendant qu'ils demandent de l'emploi, on fait baisser leur capacité, finalement, à être un peu exigeant dans l'emploi qu'ils vont retrouver. Et ça a un effet global sur l'ensemble des salaires. Donc, on a tout ce panel de mesures-là. Et puis, aussi, peut-être dernier point, si j'ai le temps, aussi le gel des rémunérations dans la fonction publique a aussi un impact, puisque finalement, ça crée une baisse de l'attractivité de ces métiers-là. Et donc, et on le voit dans certains domaines où la fonction publique n'arrive plus, notamment l'éducation, en santé aussi, dans certains domaines, n'arrive plus à recruter. Et évidemment, ça permet, d'une certaine manière, de laisser plus de main-d'œuvre dans le secteur privé à moindre coût.
Élise Penalva-Echer, est-ce que cette tendance longue et lourde aussi à la baisse du coût du travail, elle a impacté ce que vous nous disiez un peu plus tôt, cette idée d'individualisation des salaires? Vous nous disiez que vous reviendrez sur les origines finalement de ce mouvement-là. Est-ce que les deux sont à mettre en parallèle?
Oui. Alors pour les origines de l'individualisation des salaires, on a une théorie qui s'appelle la théorie de l'agence, qui est quelque chose d'assez compliqué, hein, mais qui, pour le dire un peu plus simplement que les travaux développés, qu'il faut une carotte. C'est que si vous payez plus les salariés, ils vont travailler plus et que ça ira mieux. C'est l'idée qui se cache derrière ces primes. C'est pas une idée récente, hein. Le développement des primes, il est assez récent, hein. L'individualisation, c'est les années 80. Mais ça, on le voyait déjà sur le salaire ouvrier avant le salaire d'Henry Ford. Il était un peu pensé... Alors, il y avait un fixe qui était important, mais il était pensé après avec une forme d'incitation. Ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 80, la théorie de l'agence, elle est assez populaire et elle propose effectivement d'associer l'intérêt des grands cadres managers qu'on voit arriver dans les entreprises à l'intérêt des actionnaires en leur développant tout un tas de dispositifs de primes type bonus de trader, type stock option. Et que petit à petit, tout ça, ça va descendre dans les entreprises pour aujourd'hui atteindre une majorité de salariés. L'idée de ces primes, c'est d'inciter. Mais en fait, quand on enquête réellement dans les entreprises, ce qu'on observe, c'est qu'elles ne servent pas vraiment à inciter et les effets ne sont pas de forme d'incitation. Pourquoi ? Parce que si elles se sont développées, elles sont reçues de manière quand même assez différenciée selon les secteurs, selon les types d'emplois, selon les genres. On n'a pas les mêmes types de primes et on va avoir des effets différenciés. C'est-à-dire que ces primes, elles ne servent plus tellement... Si l'objectif était d'inciter, elles servent plutôt à fidéliser certaines catégories de population, comme les jeunes, qui sont moins payés parce qu'ils sont jeunes. Mais elles peuvent aussi, quand elles ne sont pas versées, servir à contrôler ou punir certains salariés en les mettant au placard. J'ai pas mal d'extraits d'entretiens de salariés autour de la cinquantaine qui disent « moi j'ai compris que j'allais être renvoyé parce que justement j'ai pas reçu ma prime ». Donc voilà, elles ont différents effets dans les organisations qui sont loin de l'incitation en fait.
Eh bien un grand merci à tous les deux, Élise Penalva-Echer et Clément Carbonnier, de nous avoir apporté vos lumières sur ce sujet que l'on continuera de suivre ici à Entendez-vous l'écho, parce qu'on aurait pu parler aussi de la façon dont la loi encadre le partage de la valeur et les avancées législatives à ce niveau-là. Mais nous manquons malheureusement de temps, puisqu'il est temps de retrouver la chronique de Dominique Méda.
Pourquoi devons-nous respecter l'objectif du ZAN ? Zéro artificialisation nette. Chaque année, en France métropolitaine, plus de 20 000 hectares sont artificialisés. La loi Climat et Résilience a fixé un objectif ambitieux, le zéro artificialisation nette en 2050, avec pour y parvenir un seuil intermédiaire de réduction de 50% de ce rythme d'ici 2031. Pourquoi tenir cet objectif est-il essentiel ? Il nous faut d'abord comprendre de quoi nous parlons. Qu'est-ce donc que l'artificialisation ? La loi l'a définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Nous avons tendance à l'oublier parce que nous vivons de plus en plus littéralement hors sol, sans contact avec celui-ci. Mais le sol est à la fois le support et le produit du vivant. Il est la partie vivante de la géosphère et il remplit d'innombrables fonctions indispensables à la vie sur Terre. L'artificialisation des sols affecte durablement et parfois irréversiblement leurs fonctions. L'artificialisation des sols contribue notamment à l'effondrement de la biodiversité en rendant certains espaces inhabitables pour de nombreuses espèces. Elle réduit également notre souveraineté alimentaire, alors que les sols agricoles ne représentent que 49% des espaces naturels, forestiers et agricoles. L'artificialisation s'est effectuée à plus de 80% sur des espaces agricoles. Elle altère également les fonctions écologiques et biochimiques du sol, notamment le stockage de carbone, l'infiltration des eaux, ainsi que les mécanismes biochimiques de dépollution. Enfin, elle s'accompagne généralement d'un processus d'étalement urbain qui permet l'augmentation des déplacements, du trafic routier et donc des émissions de gaz à effet de serre et des polluants toxiques pour la santé. Par quoi l'artificialisation est-elle provoquée ? Dans une note passionnante, France Stratégie indique que, sur les 20 dernières années, 63% de ce processus a été alimenté par la construction de logements, le reste l'étant par le développement de zones d'activité et d'infrastructures. De façon encore plus précise, l'étude montre que la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers semble davantage liée à la somme de petits projets dans des communes rurales qu'à de grands projets en milieu urbain. Le besoin en logement s'explique, comme le mettent en évidence plusieurs études, dont celle déjà citée, par la croissance du nombre de ménages, elle-même nourrie par l'augmentation de la population et la réduction de la taille des ménages. En effet, le vieillissement de la population et le phénomène de décohabitation contribuent à faire décroître le nombre de personnes par ménage. Le processus est aggravé par la tendance à la périurbanisation, qui s'explique tout à la fois par la cherté des logements dans les grands centres urbains, l'attraction du pavillon individuel et l'éloignement domicile-travail. À cela s'ajoute l'augmentation du nombre de résidences secondaires. Afin d'endiguer ce processus d'artificialisation des sols, la loi a donc arrêté une cible précise. Au niveau national, le zéro artificialisation net doit être atteint en 2050. Et chaque région métropolitaine, hors Île-de-France et Corse, doit réduire sa consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de moitié entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Le respect de ces objectifs va évidemment obliger les régions à des arbitrages drastiques, d'autant plus douloureux qu'elles ne sont pas toutes soumises aux mêmes pressions. L'étude de France Stratégie suggère plusieurs pistes pour y parvenir. Une consommation moindre d'espace par logement et une réduction des besoins en logement en limitant les résidences secondaires et occasionnelles, ainsi qu'en luttant contre la vacance. Mais l'ambition de réindustrialiser la France et de développer de nouvelles infrastructures de transport devrait se traduire par un besoin accru de foncier. Cela risque de rendre les conflits d'usage plus nombreux et les décisions de politique publique très délicates. Pour l'instant, les engagements des régions ne semble pas privilégier, selon France Stratégie, des scénarios de rupture.
Merci Dominique, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment ou sur l'application Radio France.
Abraçava tua voz na sala, os quadros e os cristais. Pois dos assuntos sobre bruxaria, minha avó daria quem sabia mais. Dos mistérios do planeta e o dom da natureza de se transformar. E transformando ela mudou de plano. Um dia todos vamos, porém até lá. Vai meu filho, encontra um jeito de ser aqui mesmo que que você sonhar. E por que não cantar? E por que não cantando? Lá, 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 lá. E por que não cantar? E por que não cantando? Lá, 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 lá.
On se quitte avec ce titre intitulé A Balada de Tim Bernardes, interprété par l'artiste brésilien indien Tim Bernardes. Merci à Inès Gender qui a préparé cette émission et à Léa Sabourin qui l'a programmée. Merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Tina Young, Léopold de Thiévin, Anouk Millot, Diane Devancet et Laurence Jeunepin. La semaine prochaine, Tiffaine de Roquigny ne se refuse rien et vous entraîne à travers une économie de tous les excès en 3 épisodes, surcharge de travail, surconsommation et surproduction. Une série à écouter sans modération dès lundi prochain, 14h. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur le site de France Culture, à la page Entendez-vous l'écho, sur l'application Radio France pour la version podcast.